RCFM, les experts, Marie Bronzini.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans votre émission Les Experts. Nous recevons une nouvelle fois l'AUE, Agence d'aménagement durable, d'urbanisme et d'énergie de la Corse, représentée ce matin par Marc-Antoine Bouteille. Nous allons parler d'éco-conduite. À ses côtés, Jean-François Benassi, président de la Fédération nationale des transports de voyageurs. Pour répondre à vos questions, nous sommes là jusqu'à 10h. Vous pouvez nous joindre au 04 95 32 22 22. Marianne, je vous attends au standard. Autre possibilité, vous pouvez nous écrire via la messagerie de la page Facebook d'RCFM. Messieurs, bonjour.
Bonjour.
Soyez les bienvenus. C'est quoi l'éco-conduite, Marc-Antoine Bouteille ?
Alors, tout simplement, l'éco-conduite, c'est un ensemble de pratiques qui permettent de réduire notre consommation de carburant et l'usure des pièces mécaniques de nos voitures. Donc c'est à la fois bien pour l'environnement et pour notre portefeuille.
Alors moi, l'éco-conduite, je pensais que c'était éviter de prendre la voiture lorsqu'on peut marcher, faire du covoiturage par exemple, utiliser les transports communs lorsqu'on est en milieu urbain. Voilà, moi je pensais que c'était ça l'éco-conduite. Je n'imaginais pas que l'on pouvait agir sur notre véhicule.
Oui, c'est ça. Alors, bien sûr, en amont de faire un trajet, il faut toujours se poser la question, est-ce que c'est vraiment nécessaire que je prenne ma voiture ? C'est sûr, comme vous dites, si on fait un trajet court en ville, c'est un trajet sur deux fait moins de 5 km. Pourtant, sur ces trajets, les trois quarts sont faits en voiture. Sur des trajets comme ça, on peut largement privilégier la marche ou le vélo. D'autant plus qu'il faut savoir qu'un moteur, le moteur d'une voiture, là où il consomme le plus, c'est sur les 5 premiers kilomètres. Donc on a tout intérêt à faire ces trajets-là en mode actif. Et si c'est des trajets plus longs, qu'on ne peut pas faire en vélo ou à pied, on peut effectivement, comme vous le disiez, privilégier les transports en commun, donc le train, l'autocar, le bus en ville ou dans le périurbain, et le covoiturage.
Et le train, je ne les oublie pas. On peut utiliser aussi le train. Mais petite question naïve, il va y en avoir plein dans cette émission.
Oui.
Je ne comprends rien, je ne prends jamais ma voiture. Pourquoi on consomme moins ou on consomme plus les 5 premiers et moins ensuite kilomètres ?
Alors, c'est parce que le moteur, quand vous le mettez en marche, je dirais, le temps que le véhicule se chauffe, il va tirer plus de carburant.
D'accord.
Donc, et c'est au bout des 5 premiers kilomètres qu'il va être, je dirais, plus efficient, plus efficace. Et après, quand on est en route, donc on rentre vraiment là dans le cœur de l'éco-conduite, il y a beaucoup de pratiques qui permettent de réduire sa consommation et on va le voir.
Des gestes tout simples, des gestes. Je n'en fais quasiment aucun, je vous le dis. Pour avoir lu, je n'en fais quasiment aucun. Restez bien à l'écoute parce que je suis sûre que vous allez être surpris toutes et tous. On peut faire vraiment des éco-gestes sans même s'en rendre compte. Et il y a un véritable bénéfice au niveau du porte-monnaie, mais également au niveau de l'environnement. Il est aisé de circuler en autocar en Corse ?
Oui, tout à fait. Ce n'est pas plus problématique que les voitures. On a un réseau routier qui n'est pas bon. Mais il n'est pas bon pour les autocars comme pour les voitures.
De la même manière.
De la même manière, on a le même réseau routier défaillant, mais on s'adapte.
Lorsqu'on utilise l'autocar pour faire un trajet, même pour le travail, pour se rendre dans une autre ville, dans un autre village, c'est autant de voitures en moins sur la circulation.
Et c'est très important, ça serait une économie d'échelle relativement grande. Si chaque fois qu'on met un autocar sur la route, on supprime de 30 à 40 voitures, parce que regardez les véhicules que l'on croise, la plupart les utilisateurs sont seuls dans leurs véhicules, donc l'impact pour la planète est très très important. Mais il faudrait pour ceux pouvoir développer ce moyen de transport en Corse, qui en est un peu à ses balbutiements. Nous avons actuellement des projets avec la région pour développer, et on aimerait essayer, si la loi nous le permet, peut-être qu'avec un statut un petit peu différent dans quelques jours, ça nous ouvrira des portes, déjà de se servir de tous les autocars qui ont un maillage pour amener les enfants à l'école, pour en profiter, pour porter nos personnes âgées qui ne sont pas nombreuses. Il serait très facile de les mettre sur les autocars et ça ne coûterait rien à l'usager, à la collectivité, puisque cette partie du trajet est déjà rémunérée par la région. Bien sûr. Après, il faudrait envisager des retours, mais ça serait très important. D'autant plus que n'oublions pas que la Corse, nous sommes une des régions les plus pauvres, si ce n'est la plus pauvre de France. Et malheureusement, au jour d'aujourd'hui, on n'arrive pas à faire ce service. On a commencé à travailler avec la région, on a des projets communs qu'on va développer avec M. Paolini d'ailleurs, pour essayer de combler cette carence qui dure depuis trop longtemps.
Alors, il faudrait des heures pour en parler, et puis il faudrait apporter, évidemment, d'autres personnes autour de cette table pour peut-être polémiquer avec vous, donc ce serait compliqué, mais les grandes lignes problématiques, quelles sont-elles ? Il y a le réseau routier, ça c'est une évidence, puisque nous, en tant que conducteurs, on le vit au quotidien.
On a un réseau routier qui est défaillant. Regardez, actuellement, là, ce matin, pour venir à votre émission, je suis passé par la côte orientale et nous n'avons même pas la troisième voie de dépassement qui permet aux gens de, en toute sécurité, pouvoir dépasser le véhicule qui les précède. Et non seulement nous n'avons très peu de voies de dépassement sur la Corse, et depuis cette année, je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau de la préfecture, les quelques endroits où on pouvait doubler en sécurité, ils nous ont mis des lignes continues. Donc après, vous savez que l'état d'esprit des gens chez nous, on a un petit peu le sang chaud. Mais ce n'est pas dû au réchauffement climatique, c'est dans notre ADN. Et c'est dommage de s'énerver pour malheureusement pas gagner de temps.
Oui.
Le problème, il est là. Quand on fait un trajet d'ici sur Bastia, Porto Viejo ou Ghisonaccia, les gens vont s'énerver, vont rouler vite, vont prendre des risques en doublant. Et malheureusement, on va arriver où il y a des travaux qui durent longtemps. Et ils ont pris des risques inutiles car ils sont au même point. Le véhicule qui est derrière eux n'a doublé personne et il arrive à la même heure.
Est-ce qu'il y a des lignes quotidiennes aujourd'hui pour rejoindre les villes, les villages principaux de Corse ?
Il y en a très peu. Il y en a très peu.
Dû à ce que vous venez d'évoquer ?
Non, c'est pas dû à ça. C'est-à-dire que c'est des choses que avant Fitterman, il y en avait davantage. Ouais. On a perdu nos droits. Maintenant, la région a obligation d'un schéma régional des transports. Il était un petit peu fait en Corse du Sud, pour ainsi dire pas en Haute-Corse, mais il faut savoir que ce n'est pas une volonté délibérée de la région de ne pas le faire. C'est compliqué, il faut le penser, il faut l'imaginer, mais le problème, c'est les ressources pour pouvoir le faire. Ça coûte de l'argent, même si c'est un service public, il faut trouver les moyens, et on n'a pas le choix de le faire.
Alors pardonnez-moi, on sort un peu de la UE, mais je profite de la présence de Jean-François Benassi pour lui poser ces questions. Alors, vous-même, vous êtes entrepreneur, vous n'êtes pas venu à ce titre, mais je profite de votre présence avec les autocars Benassi. Vous avez fait appel, justement, à la UE, à la possibilité pour tous vos autocars d'être plus éco-responsables.
On a signé la charte Eco2 il y a plus de 4 ans maintenant. Et il y avait des choses qui étaient évidentes, mais on n'y avait pas pensé. C'est peut-être parce qu'elles étaient évidentes qu'on n'y avait pas pensé. Par exemple, de vérifier très fréquemment la pression de nos pneumatiques. On ne le faisait pas, donc on avait une commission accrue. Faire des stages d'éco-conduite à nos salariés pour consommer moins de carburant. Quand on voit le prix du carburant, c'est important. Nous, on a la chance d'avoir des garages assez grands où on peut mettre nos véhicules à l'abri, que ce soit en été comme en hiver, et surtout en été, on baisse considérablement notre consommation de carburant, dans le sens où, avant de partir faire un centre aéré, nous n'avons pas besoin de laisser tourner le car pendant 20 minutes ou une demi-heure pour qu'il y ait un confort à l'intérieur pour les passagers, même si bien souvent l'été, ce sont des enfants.
Pour la climatisation.
Pour la climatisation, qui est un gros consommateur d'énergie, parce que le véhicule ne fait pas de kilomètres, mais comme le moteur tourne,
il consomme.
Et là, on fait des économies vraiment intéressantes.
On va parler de ces éco-gestes pour les particuliers, mais également pour les transports. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous nous rejoignez au 04 95 32 22 22 ou via la messagerie de la page Facebook d'RCFM. Mes invités se feront un plaisir pour vous répondre.
Les experts à réécouter sur notre site bleu-rcfm.com. RCFM, les experts, Marie Brondine.
Et avec l'AUE, nous parlons d'économie de conduite, l'éco-conduite. Jean-François Bénas est également avec nous. Il est le président de la Fédération nationale des transports de voyageurs et Marc-Antoine Bouteille pour l'AUE. Alors, les éco-gestes au quotidien, c'est quoi exactement? On a entendu parler de pneumatiques pour les autocars. J'imagine que c'est pareil pour les véhicules personnels.
Oui, ce qui est faisable sur les autocars, il est réplicable sur son véhicule personnel. Donc, on parlait des pneumatiques. Donc, une fois par mois, vérifier la pression de ses pneus. Parce qu'un pneu sous-gonflé, c'est un pneu qui fait consommer plus et c'est un pneu qui s'use plus vite. Donc, il y a un enjeu économique. Ça, c'est des pneus, les pneus, ça coûte cher. Et derrière,
c'est évident, je ne le fais jamais. Non, et pourtant, c'est très évident. Ouais.
Et je dirais, pour l'environnement, c'est, le pneu, c'est aujourd'hui un produit qu'on a extrêmement de mal encore à recycler. Donc, c'est dans tous les intérêts de le faire. C'est bête, un petit moyen mémotechnique de le faire quand on est un peu tête en l'air, se mettre une alerte
Bien
tous
sûr.
Les mois sur son téléphone, peut-être, récurrente, et on y pense. Et ça permet de consommer, voilà, de consommer beaucoup moins.
Autre chose qui est très intéressant, figurez-vous que votre véhicule n'est pas une cave ou un grenier. On ne stocke pas les affaires qu'on n'utilise pas dans son véhicule.
Et oui, parce que le poids inutile dans un véhicule, en dehors de, d'avoir un aspect, je dirais, vraiment bordélique.
Ah non, ça peut être très bien rangé, je ne suis pas d'accord.
Ah, ça, après, c'est selon les sensibilités de chacun, de chacune et chacun. Mais en dehors de ça, ça fait consommer plus.
Bien
100
sûr.
Kilos en plus dans une voiture, c'est 5% de carburant en plus.
C'est
par
énorme,
exemple.
Je trouve.
Donc sur une année.
Ouais, c'est énorme.
Voilà,
on ne s'en rend pas compte, mais oui, ça chiffre.
Exactement.
Pareil pour les autocars.
Oui, pareil. Donc nous, en général, 80% de notre activité en Corse, pour tous les autocaristes, c'est du transport scolaire, donc on n'est pas trop chargé.
Oui.
On a des enfants qui sont un petit peu moins lourds, même si des reportages ce matin faisaient que certains étaient victimes de surpoids, mais c'est négligeable pour nos véhicules. Les cartables, ils en ont de moins en moins. Ils ont des tablettes, des téléphones et encore des petits sacs. Mais il est vrai que le poids joue sur un véhicule.
Ah oui, et surtout sur un véhicule de transport en commun. Sa façon de conduire, également ?
Oui. Alors, comme on disait, chez nous, on est beaucoup à avoir le sang chaud. Voilà, c'est tout ça, en fin d'année, si on sort la calculette, on se rend compte qu'avoir une conduite plus douce, ça peut faire économiser dans les 400 euros par an de carburant. C'est pas rien. Avoir le sang chaud, c'est comme on disait tout à l'heure, doubler pour 3 km plus loin, avoir des ralentisseurs et du coup, on se fait rattraper par le véhicule qu'on a doublé.
Donc, doubler à bon escient, lorsque on peut doubler. Ouais.
Doubler à bon escient, quand, ouais. Lorsqu'on peut doubler. Et tout ça aussi, ça permet de consommer moins, mais aussi de créer un environnement plus sécuritaire. Pour soi, déjà, augmenter sa propre sécurité et celle des autres. En roulant moins vite, voilà, on est plus en sécurité, quoi, logiquement.
Le sous-régime, c'est pas terrible non plus, non ?
Non.
On nous a tous appris quand même à bien tirer les rapports, pour celles et ceux qui ont encore des voitures avec une boîte manuelle.
C'est ça, ceux encore qui ouais. sont en boîte manuelle. Donc, toujours être voilà, entre 2005 et voilà.
On consomme moins qu'une boîte automatique ?
En manuel, on consomme un peu plus quand même.
Ah ouais,
en,
voilà.
boîte, ouais.
en boîte manuelle ?
Ouais.
En boîte manuelle, voilà. La hausse des prix des carburants, ça c'est à prendre en compte également.
Oui, surtout c'est à prendre en compte parce que comme on le disait tout à l'heure, on est la région la plus modeste de France. Et du coup, ça fait de nous la première région en termes de précarité mobilité. Or, on parle souvent de précarité énergétique pour les logements. Et c'est un terme qui est aussi applicable à la mobilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, se déplacer, on est la région où se déplacer coûte le plus cher par ménage. C'est-à-dire dans le budget d'un ménage, étant donné qu'on a les salaires moyens qui font partie des plus bas sur le territoire hexagonal, c'est chez nous que ça impacte le plus notre pouvoir d'achat. Donc c'est pour nous c'est vraiment important de voilà, de pouvoir faire des économies là-dessus pour redonner du pouvoir d'achat.
Alors, les entreprises sont aidées, mais les particuliers aussi sont aidés. On va expliquer comment, Marc-Antoine. Alors, tout à l'heure avec les entreprises, Jean-François, vous nous indiquerez comment ça se passe. Pour les particuliers, nous sommes aidés, par exemple, à l'achat d'un vélo électrique ou même d'un véhicule électrique.
Alors, pour les particuliers, il y a plusieurs solutions. Donc, quand on veut privilégier un autre mode de déplacement que la voiture, il y a effectivement l'aide à l'achat de vélos électriques. Donc, c'est un dispositif que l'AUE a lancé déjà depuis 8 ans et dont plus de 5000 Corses aujourd'hui ont bénéficié. Donc, un vélo électrique, il y a plein d'avantages, donc pour sa santé comme pour l'environnement. Et ensuite...
Comment fait-on pour avoir l'aide ?
Donc, quand on est particulier, on se rend chez un vélociste qui est près de chez soi, qui est membre du réseau de l'AUE. Donc, sur le site internet...
Il y a la liste.
Voilà, vous avez la liste et la carte. Et en fait, vous avez juste à amener votre pièce d'identité et votre justificatif de domicile. Et c'est le vélociste qui se charge de tout.
À combien s'élève l'aide ?
Alors, c'est 25% du prix du vélo électrique, plafonné à 500 euros. C'est-à-dire sur un vélo électrique, par exemple, à 2000 euros,
on a compris.
Vous avez 500 euros d'aide.
Voilà. Vous avez un vélo ?
Oui.
Tous les deux ? Électrique ?
Oui. Oh là là. Non, moi non, pas électrique.
Moi oui, vu mon âge.
Parce que, alors, le vélo électrique, c'est super, mais il faut évidemment des voies consacrées au vélo, la possibilité de rouler en toute sécurité, et puis il faut pouvoir stocker ce vélo, surtout lorsqu'on est en milieu urbain. Est-ce que c'est des choses auxquelles vous pensez ?
Ah, bien sûr, bien sûr. C'est des choses auxquelles on pense beaucoup et sur lesquelles on s'investit. Donc, c'est vrai qu'on part de loin, mais on voit que depuis quelques années, il y a une vraie accélération qui est faite. On le voit sur Bastia, on le voit sur Ajaccio, avec les voies douces et les pistes cyclables qui poussent, qui s'agrandissent vraiment. Sur les 5 dernières années, on voit vraiment que...
La différence entre voies douces et pistes cyclables ?
Voies douces, c'est une voie qu'on peut partager avec les piétons. Vélo et piétons, une piste cyclable, c'est exclusivement réservé au vélo. Donc là, c'est des choses qui sont assez nouvelles, des infrastructures assez nouvelles.
Jean-François, c'est pas tout à fait compris dans les esprits, je crois. Ouais, il y a beaucoup d'éducation à faire
encore.
Ouais. Parce que ça se mélange un peu. Vous êtes d'accord ?
C'est ça. Bon. C'est ça.
Ensuite, il faut pouvoir stocker ce vélo.
Il faut pouvoir stocker, même si la Corse, en termes de... C'est ce qu'on remarque. Hein,
ouais.
En termes de sécurité, pour le vol, le vandalisme, on est encore un territoire très, très, très préservé par rapport à d'autres territoires. Mais quand on investit dans un vélo, forcément, c'est une question. C'est une question de savoir où on va le stocker, surtout quand on est en ville, en appartement.
Ouais, certains parkings proposent évidemment la possibilité de stocker des vélos. Sans. Mais pour l'instant, il faut avoir une carte de parking pour son véhicule. Donc, quelqu'un qui n'aurait qu'un vélo, je ne sais pas s'il pourrait le faire. Déjà, première chose, on parle des voitures électriques, pas ou peu de bornes.
Alors, des bornes qui sont là aussi, ça s'accélère. Donc, on a lancé... en fin d'année, un appel à projet pour accélérer ça avec les collectivités, les communautés de communes et communes, pour accélérer vraiment le déploiement des bornes de recharge sur l'ensemble du territoire, pour avoir vraiment un maillage cohérent du territoire qui permette aujourd'hui à l'électrique de se développer à bon escient, quoi.
Pour celles et ceux qui habitent en périphérie des villes et peut-être dans des villas, ils peuvent également se brancher chez eux.
Oui.
Et là, alors attention, économie, on se branche plutôt la nuit, voilà, à des heures où l'électricité est moins coûteuse. C'est à réfléchir également.
Et après, on parlait pour... juste pour faire le lien, les particuliers ont parlé des aides qui existaient. Donc ça, c'était pour le vélo. Et si on a un véhicule électrique ou qu'on covoiture ou qu'on fait du transport en commun, par exemple pour venir au travail, vérifier aussi avec son entreprise si elle a mis en place le forfait mobilité durable. C'est quelque chose que
c'est top, ça.
De plus en plus d'entreprises proposent. Et ça peut aller jusqu'à 700 euros par an. Par salarié, Donc, pour une entreprise aussi, c'est l'occasion de redonner du pouvoir d'achat à ses employés, quoi.
Alors, comment faire ? Ben, vous vous rapprochez de votre direction et vous posez la question, tout simplement.
Tout simplement.
Quel est l'intérêt pour l'entreprise, mis à part apporter du pouvoir d'achat à ses employés ? Ben,
apporter du pouvoir d'achat, aussi avoir une démarche environnementale pour l'entreprise. Aujourd'hui, c'est de plus en plus important pour les entreprises qui se lancent dans des démarches RSE. Donc, réduire l'empreinte carbone de leurs salariés. Donc, en les incitant à opter pour des transports en commun, du vélo, du covoiturage.
Mais ça compte dans leur démarche ? Est-ce qu'ils sont aidés ? Vous voyez, je pose des questions concrètes parce que ce qui intéresse un entrepreneur, Jean-François, mis à part, bien sûr, le militantisme écologique, c'est aussi qu'il y ait des répercussions économiques directes.
Il existe de plus en plus de dispositifs d'aide au niveau national, régional, pour les aider à aller vers ça. Et surtout, les démarches environnementales pour une entreprise, je dirais, dans la globalité, on voit surtout que ça leur permet d'être aussi, quelque part, il y a une démarche éthique, mais il y a aussi une démarche de performance, parce qu'on réduit aussi les coûts. On réduit les coûts, par exemple, dans l'hôtellerie, quand un hôtel fait des rénovations énergétiques, c'est 20% de suite de consommation d'énergie en moins à l'échelle d'un hôtel. Imaginez chez vous déjà moins 20% d'énergie, ce que ça représente.
On en parle souvent à l'antenne. On a des questions d'ailleurs sur les économies d'énergie en général, mais on fera d'autres émissions avec la UE qui seront évidemment centrées sur ce type de questions que vous posez, notamment sur les panneaux solaires, sur les toits de vos maisons. Vous restez avec nous, vous n'hésitez pas à nous rejoindre si vous avez des questions ou même des témoignages. Voilà, dites-nous vous comment vous circulez, comment vous vous rendez au travail, comment vous vous êtes organisé de façon éthique, mais même économique. Vous avez certainement une routine qui a peut-être changé depuis quelques années. Si nous faisons bien notre travail, nous les médias, vous devez être au courant de ce qui se passe. Donc rejoignez-nous. Et puis si vous avez des questions, comme moi, par exemple, moi je ne savais pas qu'on pouvait faire des éco-gestes avec son véhicule aussi simple que vient de les évoquer Marc-Antoine Bouteille, eh bien vous n'hésitez pas à nous rejoindre. Nous tentons de répondre à vos questions posées.
Les experts, vos questions au 04 95 32 22 22. RCFM, les experts du lundi au vendredi.
L'éco-conduite avec ce matin l'AUE, qui est notre partenaire. Nous essayons de faire une émission une fois par mois. Nous parlons de cette éco-conduite pour les particuliers, mais également pour les entreprises. Vous parliez de charte, Jean-François Bénas. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération nationale des transports de voyageurs. Qu'est-ce que vous faites au quotidien ?
Reprenez. Juste une chose. Au niveau régional. Moi, je suis le président de la Fédération nationale, mais pour la Corse, pas au niveau national. Pour notre nation, oui, per noi, soy o presidente. Mais
je t'adore. Regardez comme il en profite. C'est incroyable. Regardez comme il en profite au passage. Pour la région Corse, évidemment, vous avez raison de le préciser. Ça me paraissait évident. Qu'est-ce que vous faites au quotidien et est-ce que vous essayez de plébisciter ce genre de choses auprès des transporteurs ?
Mais il y a une chose qui est très simple, vu que les trajets que l'on fait tous les jours sont les mêmes, sont récurrents, et de ce fait, on connaît très bien le parcours. Donc, en adaptant notre conduite, on va faire des économies de carburant relativement importantes. On ne va pas freiner pour accélérer très fort derrière. Le but, c'est de ne pas freiner du tout. Le plus possible, laisser glisser le véhicule. Nous, dans notre zone, nous avons malheureusement beaucoup de ralentisseurs, les gendarmes couchés, je vous rassure, il y en a aussi beaucoup debout. Et on adapte notre conduite à ça. Il y a un confort pour l'usager, pour le véhicule et pour la caisse de l'entreprise, dans la mesure où notre consommation de carburant va baisser de manière significative.
Et de manière écologique aussi, puisque vous réduisez, par définition, vos émissions carbone.
Oui, c'est évident.
Mais c'est évident.
Je pense qu'on a pris, pas trop tard, mais assez tard, le problème de l'écologie. Et maintenant qu'on est au pied du mur, on se rend compte que si on y avait pensé plus tôt, ça aurait peut-être été différent. Mais on l'a pris, mais ce n'est plus une contrainte. Ça devient, on a l'habitude de le faire, c'est une norme.
Ouais.
Ce n'est plus une contrainte. Au début, il y a des petites contraintes. Et après, dans la conduite de tous les jours, que ce soit avec nos autocars ou avec nos véhicules particuliers, on adopte un mode de conduite différent et qui est simple à mettre en application.
Donc, on adopte un mode de conduite. On fait attention à ces pneumatiques. Est-ce que les entreprises sont aidées ?
Non, de ce côté-là, non. Nous n'avons pas d'aide.
Donc c'est juste une démarche personnelle ?
Personnelle, bon, qui est écologique, bien sûr. Ouais. Et si on, le poste carburant dans une entreprise est très, très, très important. Donc si on arrive à réduire avec l'aide de nos salariés, parce que nous, nous ne conduisons qu'un véhicule, et nos salariés font le reste, si on s'y met tous ensemble, on arrive à faire quelque chose.
On parlait des lignes, on disait qu'il y a peu de lignes d'autocars pour les raisons que vous avez évoquées en tout début d'émission. Est-ce que parfois, les autocars voyagent à vide ?
Mais le problème que l'on a sur la Corse, à mon sens, on est à la fois suréquipé et sous-équipé. Nous ne sommes que 360 000, c'est pas beaucoup.
Ouais.
Alors il faut réussir à trouver un compromis pour que ce soit cohérent pour tout le monde.
Là, mais qu'est-ce que ça veut dire un compromis ?
Un compromis. L'idéal, quelqu'un qui veut aller dans le sud de la Corse ou monter sur Ajaccio ou quelque autre endroit, ce serait qu'il y ait un car toutes les heures. Ça serait dans un monde parfait. Voilà. Malheureusement, la densité de population qu'on a sur une île ne nous permet pas de le faire. Donc, il faut essayer de trouver un juste équilibre pour qu'il puisse y avoir quand même ce service pour l'usager et que ça coûte un prix raisonnable pour la collectivité. Parce que c'est difficile, la conjoncture est difficile et... Voilà quoi.
Alors, en dehors des transporteurs, est-ce qu'on peut agir aussi sur les PME, les artisans, enfin, je sais pas moi, les commerçants ?
Alors, tous ces principes, du coup, sont réplicables aux entreprises. Et avec l'AUE, on porte en Corse le programme 16, donc qui permet aux entreprises vraiment d'agir sur leur consommation énergétique. Où on va faire avec elles un diagnostic de leur consommation d'énergie et un plan d'action avec des recommandations pour qu'elles puissent vraiment réduire là où il y a des grosses opportunités de réduction de leur consommation d'énergie.
Ça intègre aussi la flotte des véhicules pour les entreprises, le programme 16, parce que je pensais que ça ne concernait l'entreprise et la dépense énergétique de l'entreprise le bâtiment.
C'est ça,
mais
je parlais d'énergie en termes
général.
Pour les véhicules, du coup, le programme objectif CO2 dont a bénéficié l'entreprise Benas, et aujourd'hui il y a une vingtaine de transporteurs en Corse, donc transporteurs de voyageurs, mais aussi transporteurs de fret, qui ont signé cette charte. Dans le cadre de ce programme, il y a des outils pour aider les entreprises à traquer leurs émissions de gaz à effet de serre et de voir comment elles peuvent les optimiser et ainsi agir sur leurs coûts.
Donc on sensibilise, on oriente et puis après libre à chaque entrepreneur de faire un constat et peut-être d'entreprendre
des actions.
Des actions, ça peut être des actions toutes simples. Hein.
C'est ça. Donc, comme celle qu'on...
Ne pas laisser en veille ses ordinateurs, par exemple.
Par exemple, sa box.
Je pense à la radio où vraiment on a les écrans tout le temps en veille.
C'est ça. Ces ordinateurs, là, sa box, quand on part deux jours de chez soi. Et là, l'autre jour, vous en parliez avec mon collègue Christian Marianne. La consommation d'une box. La consommation d'une box que ça a. Comme répercussion sur à la fin de l'année, c'est énorme.
Mais pourquoi on l'éteint pas cette box ?
Parce qu'on n'a plus le réflexe. Ouais. On n'a pas le réflexe aujourd'hui. On a perdu tous ces réflexes, je dirais, d'éteindre. On a perdu un petit peu ces choses que tout est devenu un petit peu automatique. Donc c'est des habitudes à prendre au début, comme chaque fois qu'on fait un changement dans sa vie. Au début, c'est toujours, faut y penser. Et après, ça devient, comme disait Monsieur Bénache, après ça devient une norme.
C'est qu'il y a quelques années, voilà. Pour les personnes âgées comme Monsieur Benassi et moi-même, on a eu tellement de mal à installer nos box et tout ça qu'on se dit mon Dieu, si je l'éteins maintenant, elle repartira pas. Vous voyez, dans les entreprises, non. C'est pareil.
Ça repart.
Mais bien sûr que ça repart. Mais ce sont des réflexes à adopter.
C'est ça, adopter.
Et c'est vraiment, sérieusement, à la fin de l'année, il y a vraiment une véritable économie.
Oui, il y a vraiment une économie. On en parlait par exemple sur l'éco-conduite, c'est 400 euros par an, ça peut aller encore plus haut, tout dépend du véhicule qu'on a. Plus on a un gros véhicule et plus on roule dans l'année, plus ça va haut. Mais vous pouvez vous payer des belles choses avec ce budget-là. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut avoir de l'impact. C'est pas juste des petits gestes pour rien, quoi.
Vos missions au quotidien au sein de l'AUE, ce sont les particuliers et les professionnels. On peut vous appeler éventuellement pour un accompagnement, que l'on soit pro ou particulier, hein.
Bien sûr, particulier, pro ou collectivité. Donc, nous, en fait, on élabore la programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc, on élabore, on suit et on est dans l'opérationnel. Donc, du coup, en soutenant techniquement et financièrement particuliers, entreprises et collectivités. Donc, par exemple, pour les particuliers, on a les VAE, le programme Aurélie pour rénover sa maison et les entreprises, des entreprises qui veulent s'engager dans des démarches de transition énergétique.
Oui.
On les aide pour faire des diagnostics, des études, donc techniquement et financièrement. Pour faire ces diagnostics et ensuite pour faire leur transition. Par exemple, on a un appel à projet en cours sur le solaire thermique pour les entreprises qui veulent, les entreprises et particuliers qui veulent passer à cette énergie propre. Je vous recommande d'aller sur notre site. Oui, ouais. Vous avez, en fonction de votre
déjà
cas,
il y aura le résumé avec des dessins, des tutos pour réexpliquer tout ce qu'on vient de dire. Ce sera peut-être plus clair que ce que je viens de faire. Je rappelle que Jean-François, donc président de la Fédération nationale des transports de voyageurs pour la Corse, très important.
Très agent.
Pour le dire. Et il en profite à nouveau. Vous pouvez éventuellement, évidemment, vous renseigner auprès de lui. D'ailleurs, je le remercie parce que vous êtes venu donner un petit coup de pouce aussi pour que tout le monde fasse attention, voilà, à ces éco-gestes. Est-ce que vous, sincèrement, vous avez suffisamment de recul pour vous rendre compte des éventuelles économies au sein de votre entreprise?
Oui, c'est intéressant. C'est intéressant et c'est facile. Il suffit d'avoir la volonté de le faire et on y arrive relativement facilement. Ce qui est valable pour un autocar et pour une voiture, comme tout un chacun, c'est vraiment des gestes simples. C'est comme le tri. Le tri, au début, c'était une contrainte. Maintenant, nous, je vois à la maison,
c'est
chez
évident,
nous, on trie depuis
vrai.
Longtemps. C'est plus une contrainte du tout. C'est devenu instinctif. Donc, et on le fait dans nos entreprises. Et il en est de même. Mmh. Faut bien qu'on ait été forcé par le prix du carburant à faire un effort, parce que quand on est arrivé à 2 euros le litre...
On sait bien que c'est le nerf de la guerre. Hein. On sait bien que, oui, bien sûr, le prix, l'argent...
La consommation sur nos véhicules, ce ne sont pas des voitures comme les particuliers. Pour certains, on dépasse les 30 litres au 100, voire davantage. Ça devient très, très cher.
Oui, bien sûr.
Ça devient très, très cher. Donc, toutes les petites économies que l'on peut faire sont toujours intéressantes.
Donc, il faut le faire pour la Corse, premièrement, pour faire des économies de porte-monnaie, puis pour la planète en général. Donc, ce sont des démarches qui devraient devenir naturelles pour tout un chacun. Mais il faut évidemment qu'elles soient accompagnées. Et puis, l'idée, la première démarche, c'est bien. Mais il faut que toute la ligne se poursuive. Vous parliez de tri. Voilà, il faut que ça aille jusqu'au bout. Pour les routes, c'est pareil. Pour les économies, c'est pareil. Il faut que tous les postes soient au rendez-vous. Pouvoir stocker un vélo, par exemple. Pouvoir recharger à une borne avec un véhicule électrique. Pouvoir avoir des voies douces, des pistes cyclables. C'est important.
Donc, c'est des choses sur lesquelles il y a une accélération aussi. On parlait des stationnements, j'y repense. Par exemple, à Ajaccio, il y a des parkings sécurisés vélos qui ont vu le jour. Et aujourd'hui, chaque communauté de communes, à son rythme, accélère sur ces sujets-là. Pour, je dirais, offrir plus d'alternatives à la voiture, à l'autosolisme. C'est un enjeu écologique, de pouvoir d'achat et aussi d'espace. D'espace dans la ville, voilà.
Pour nous, les vélos ne sont pas une contrainte, mais c'est un très gros danger.
J'allais y venir, Jean-François.
Car malheureusement, le réseau routier n'est pas équipé. Alors, quand on est en campagne, ça va, on peut laisser des distances de sécurité que le code de la route nous impose. Mais en milieu urbain, et même dans toutes les agglomérations que l'on travaille, ils nous mettent des haricots partout. Mmh. Il n'y a plus la place de passer. Et ça devient dangereux parce qu'on freine, voire on arrête la circulation. Mmh. Et là, la mixité est très dangereuse. Sans parler d'un problème récurrent sur la Corse depuis quelques années, de nos petites voitures sans permis, ce qui est un autre problème pour la circulation.
J'allais y venir. Il faut évidemment des pistes cyclables, plus des arrangements de voies douces, plus, c'est toujours la même histoire. Hein. Sinon, ça va être compliqué, même si les conducteurs d'autocars, les conducteurs de voitures ont changé un peu leur façon de conduire. Ils sont plus attentifs, évidemment, aux deux roues hein, et aux vélos, mais c'est compliqué quand même. Hein.
Le réseau routier, comme on en disait tout à l'heure, ouais, dans son ensemble, a des problèmes structurels. Et on le ressent de plus en plus dans ces cas précis. C'est dangereux, il n'y a pas d'autre mot. C'est dangereux pour le vélo et les usagers.
Bien sûr. Bon, on avance hein, petit à petit, il faut rester positif. C'est bien de terminer sur cette note négative, Jean-François, mais moi aussi j'y ai pensé. Non, mais il faut être objectif, vous avez raison. En tout cas, je vous remercie à tous les deux d'avoir été avec nous ce matin. Ça a été un plaisir de vous accueillir. Moi, j'invite les auditrices et les auditeurs à aller sur le site de l'AUE où ils vont retrouver tous ces renseignements, la possibilité éventuellement de vous contacter, que l'on soit... Sûr. Entreprise ou particulier, et puis adopter voilà, ces éco-gestes, c'est tout simple, hein, vider la voiture, vérifier vos pneumatiques tous les mois, adapter votre conduite, c'est des choses faciles que nous pouvons toutes et tous faire. Merci beaucoup messieurs, je vous souhaite une bonne journée.
Merci.
Au revoir.